Bonsoir. 18, Dvarim 18, verset 9.
Ouais,
À
et
partir
l'autre,
de
c'est...
verset 9 jusqu'à verset 22. Après, on va faire chapitre Dvarim, chapitre 13, 2 jusqu'à 6. Alors, on va commencer. Alors, je commence Dvarim Yutret, 18, verset 9. Kriataba el haaretz, car tu viendras dans la terre, Asher Hashem Elokecha noten lach, que Dieu il te donne. Lo tilmad la asot, il faut pas que tu apprends pour appliquer, que ketavot agoyim haem, comme les mauvaises coutumes de ces nations qui habitent maintenant. Lo yimtsa vecha ma'avir beno bito ba'esh, il faut pas qu'on trouve chez toi quelqu'un qui offre son fils ou sa fille dans le feu. Ça a été un culte à Avodah Zarah, d'offrir les enfants au feu. Kosem Kesamim, un homme, Kosem Kesamim, c'est une espèce de magicien qui cherche à connaître le futur, Meronen, ou Menachesh, ou Mechashef. C'est des différentes sortes d'astrologues et de manières de connaître le futur. Chover Chaver, Sholovi Idoni, quelqu'un qui consulte les morts, Doreshel Hametim. Il y a toutes sortes de procédés, comme les nations autrefois, quand un homme il veut connaître le futur. Les gens ils veulent se connaître le futur, ils veulent savoir est-ce qu'il y aura une guerre, est-ce qu'il y aura la paix, est-ce qu'il va faire une parnassa, il va réussir, il va pas réussir. Comment les astres, comment sont mazal au ciel et vis-à-vis de lui, bonheur, malheur, si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Ah, les gens, ils s'intéressent toujours à connaître le futur. Alors, ils ont toutes sortes de pratiques. La Torah nous dit, faites pas ces pratiques, et tu vois, Hashem kolose eile, begla la tovete eile, Hashem elekecha, morishot tamim panecha. Il ne faut pas utiliser ces méthodes. Tamim tiem, Hashem elekecha, fais confiance à Dieu, que Dieu va gérer bien l'affaire. Ce qui est important pour un juif, c'est pas le mazal, c'est pas le programme initial qui existe, c'est un deuxième programme qui se dépend de la Torah aux mitzvot. Quand le peuple juif fait la Torah aux mitzvot, Dieu leur fait le bonheur. Et pour nous, le bonheur ou le contraire, ça dépend qui est aux mitzvot. Donc, ce n'est pas intéressant pour nous de chercher à connaître le futur. Bon. Qui a goyim haïl asherata car ces goyim que tu vas hériter leur terre, el ma'onenim vel kosmim yishmaou. Eux, ils écoutent toutes ces procédures. Va tatoa lochen natan lacha Hashem Dieu, il t'a pas donné cette part. Comment les Juifs peuvent connaître le futur? Navi, un prophète, Mikirbacha de ton intérieur, mais Achecha de tes frères, communique comme moi. Yakim l'Hashem Elokecha, Dieu va t'installer. Et Laftishmon, écoute le prophète. Les Juifs, ils ont la prophétie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce prophète? Il va pas donner une nouvelle religion. On peut pas recevoir une nouvelle religion. Dieu peut donner une nouvelle religion. Mais ce prophète, il fera ce que les goyim, ils cherchent chez les astrologues et chez les magiciens et chez toutes les diseurs de bonne aventure et chercher les morts. Ça veut dire ils veulent connaître le futur pour savoir agir aujourd'hui selon ce que le mazal leur apporte. Donc, tu peux demander le prophète. La Gemara nous raconte, il y avait chez les Juifs 1 200 000 prophètes. Mais nous connaissons 48 prophètes dans les dans tout le Tanakh, 48. Et la Gemara nous dit qu'il y avait 1 200 000. Lorsque les versets n'ont retenu que les prophéties, qu'ils étaient bien pour leur époque et pour le futur, qu'on doit connaître pour le futur. Tout ce que les Juifs ont besoin de connaître pour le futur sont marqués parmi les prophéties de ces 48 prophètes. Alors, à quoi ça servait les 1 200 000? Le Gaon de Vilna, il dit que les prophètes à l'époque, c'était des prophètes que les Juifs ont consultés pour que le prophète leur dise qu'est-ce que moi je dois faire, quelle est ma part dans la Torah. Chaque Juif, il a une part dans la Torah. On doit accomplir toute la Torah. Mais on ne peut pas accomplir toute la Torah avec toute la force. On doit choisir. Certaines mitzvot, on fait plus. Certaines mitzvot, on fait moins. Il y a certaines parties de la Torah, on peut connaître. On ne peut pas connaître toute la Torah. Elle est trop grande. Il y a des gens qui doivent connaître plus cette partie. Cette partie, le prophète, il savait selon la neshama de chaque juif, quelle est sa part dans Avodat Hashem, C'est pour ça qu'on consultait le prophète. Et Ilav Tishmaon, donc le prophète, il dit, qu'est-ce que les gens ils doivent faire du jour au jour? De la même manière que tu as demandé au Har Horeb, Har Sinaï, Beyomako, le jour de réunion, c'est-à-dire le jour du don de la Torah, le aussi, Lishmo et Kol Hashem Elokai, Vetaïshak de la Azot, Loere, Odvolo Dieu, il aurait pu parler à chaque juif pour dire quelle partie de la Torah tu dois plus étudier, quelles sont les mitzvot que tu dois faire plus attention. Mais si Dieu, il va le dire à chaque juif personnellement, il faut que les juifs, ils soient prophètes. Or, les juifs, ils avaient peur d'être prophètes. Parce que c'est terrible pour être prophète. C'est quand Dieu parle à un homme, c'est une expérience très, 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 très difficile. Le jour de Matan Torah, il est marqué, les Juifs tremblaient, tremblaient, ils disaient, Moshe Rabbeinu, on ne veut plus qu'il continue à parler certains des brotes. Ils avaient peur de mourir. Le prophète va être très, très fort pour pouvoir supporter la parole d'Hachem, la parole de la vérité absolue. Le prophète, il sait qu'il n'est pas en train de rêver. Il sait que ce n'est pas il n'est pas hypnotisé. Il sait que c'est la vérité absolue qui lui apparaît. Alors, les Juifs, ils avaient trop peur. Ils ont dit, si HaKadosh Baruch Hu veut nous parler autre chose, qu'il parle à travers un prophète. Alors, que ce soit le reste de la Torah que Moshe Rabbeinu nous devait recevoir, ou pour chaque génération, quand Dieu veut donner un message.
Oh.
Je dis verset Yud Zayin. Dieu m'a dit à l'époque, et va ils ont bien parlé. Ils ont peur, je comprends. Effectivement, c'est peur, c'est pas fait pour tout le monde. Navi Hakim Lahem Kamoucha, un prophète, je vais les réinstaller parmi leurs frères comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il va leur parler. Tout ce qu'il va ordonner. Si par exemple les Juifs, ils doivent faire une guerre, ils doivent faire arrêter une guerre, etc. Dieu parlait avec le prophète. Vaya Haïch, il sera l'homme à Shalou Ishmael Devaraï qui n'écoutera pas mes paroles. Atir Deber Bishmi, qu'il parlera en mon nom. Anofi Adrosh Mimo, je vais réclamer un homme qui est reconnu comme prophète. On doit écouter ce qu'il dit. Comme mon homme, il est reconnu comme prophète. Parce que Shmuel Hanavi, que Dieu dit au prophète, dit au peuple, telle et telle chose dans le futur qui va arriver. Et le prophète, il dit, telle et telle chose va arriver, et les gens, ils vont vérifier. Le Sanhédrin va vérifier. Les Chachamim vont vérifier. Et on lui demande beaucoup, beaucoup de choses. Et si tout ce qu'il annonce au nom de Dieu se réalise, alors il est reconnu comme prophète. Si une fois il fait un faux pas, une fois le prophète, il dit au nom de Dieu, ça va arriver telle et telle chose, et la chose ne se réalise pas, donc c'est un faux prophète. Faut le liquider, ce monsieur. Une fois, ce suffit, il rate. Achanavi, ce prophète, Achayazid, qui aura le culot, qui aura la chutzpah, il est d'abord d'avoir de parler une parole, Bishmi en mon nom, et Asher Lotzivitib d'abord, quelque chose que je ne lui ai pas ordonné, Vacheri d'abord Bishemilumechirim, ou qui parle au nom de notre Dieu. La première chose, même il parle au nom du vrai Dieu, mais quelque chose que je ne lui ai pas demandé de parler. On met un avis à où? Alors cet homme-là doit être mis à mort. C'est un faux prophète. Ritumar bilbabecha, si tu vas demander dans ton cœur. Et Han et Daedadavar, comment nous pouvons savoir? Acher et Daedadavar, la chose, la parole, Acher lotibro, Hachem, qui Dieu n'a pas ordonné. Alors, sauf qu'il dit, Acher et Deber un avis b'shem Hachem, si le prophète il dit quelque chose au nom de Dieu. Veloye et la chose ne se réalise pas. Veloye elle vient pas. Ou Hadavar, Hashem. Donc ça, c'est une parole que Dieu n'a pas dit. Parce que quand Dieu il dit quelque chose, c'est obligé de se réaliser. Bezadon dibro Hanavi, avec méchanceté, avec ruse, avec préméditation, ce prophète, il a parlé. C'est un manipulateur. Il a utilisé le nom de Dieu pour se donner une importance pour que les gens le suivent. Il a osé de parler le nom de Dieu. L'otagour, il ne faut pas avoir peur de lui. Toutes ses promesses, il ne faut pas avoir peur. S'il dit, si vous ne me suivez pas, vous allez tomber dans l'enfer, comme tous les faux prophètes, ils disent, ceux qui ne me suivent pas, Eh bien, il tombe dans l'enfer, Dieu va le punir, il va tomber malade, il va arriver ça. Toutes ces annonces, il faut pas, l'Otagour n'a pas peur, c'est des ch'touillottes, il faut pas l'écouter. C'est un faux prophète. Donc, si un homme, il annonce pas au nom de Dieu, un homme qui dit demain va arriver telle et telle chose, la semaine prochaine va arriver telle et telle chose, mais il ne le dit pas au nom de Dieu, oui, et il se trompe, bon, soit c'est un fou, un rêveur, des fois il dit juste, des fois il dit pas juste, il dit au pif, il a senti, et ça se réalisait, mais une fois ça se réalise pas, il n'est pas mis à mort, parce qu'il n'a pas parlé au nom de Dieu. S'il parle au nom de Dieu, on peut dire n'importe quoi, c'est vrai ou c'est faux. L'imbécile, il croit. Tu veux pas croire, tu crois pas. Mais un homme qui dit, Dieu m'a parlé, ça c'est autre chose. Dieu t'a parlé, au nom de Dieu, dire des choses que Dieu t'a pas dit, ça c'est grave. Alors, si on l'attrape à un mensonge, une chose qu'il a promis qui se réalise pas, eh bien c'est un faux prophète. Et s'il dit des choses qui sont contre la Torah, on n'a même pas besoin de savoir si ce qu'il promet, il se réalise ou pas. On s'en fiche. S'il dit contre la Torah, elle a déjà dit que Dieu va pas donner une nouvelle Torah. Donc ça, c'est sûr que c'est un faux prophète. Aussi, un homme, il parle au nom de Dieu, au nom d'autres dieux, pas le Dieu des Juifs, un faux Dieu, il parle au nom de Shmouda ou au nom de je ne sais pas qui. Alors, ça, c'est sûr que c'est un faux prophète. On n'a pas besoin de regarder si ces annonces se réalisent ou pas. Mais si on parle au nom du vrai Dieu, et il dit des choses, Dieu m'a dit, faut faire une guerre, il faut arrêter une guerre, autre chose. Peut-être il est vrai prophète, peut-être non. Si on voit que c'est un voyou, évidemment, c'est pas le prophète de Dieu. Mais disons, il se comporte bien, il se comporte à nos yeux super bien. Là, il faut le vérifier. Et si une fois il a dit quelque chose qui ne se réalise pas, c'est un faux prophète, il ne faut pas avoir peur. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors ça, c'est marqué un petit peu plus tôt. Regardons Dvarim Yud Gimel. On va revenir à un deuxième passage du faux prophète. Il y a deux passages dans la Torah du faux prophète. Alors, on revient ici, chapitre Yud Gimel 13. Dvarim, chapitre 13, verset bête, verset 2. Vous avez ouvert? Qui yakum bekirbecha navi? S'il va se lever dans ton intérieur un navi. Donc, navi, quelqu'un qui a une vision, ou cholem chalom, où il rêve des rêves. Un vrai navi aussi, peut avoir par un rêve ou par une vision. C'est marqué que Hachem, il a dit à Aaron et à Myriam, quand ils ont parlé mal de Moshe, ils ont dit, quelle différence entre Moshe et nous? Et à Kadesh Baruch, il a dit à Aaron et Myriam, Imien viachem, bamara elavet vada, s'il y a un prophète parmi vous, un vrai prophète, bamara elavet vada, dans un miroir, dans une vision, d'un miroir, je veux me faire savoir, Dieu parle avec le prophète, il montre des choses dans un miroir indirectement. Ou dans le rêve, il parle avec le prophète. Donc, ça peut être le vrai prophète. Alors, qui a kombekirbecha? S'il va se lever dans ton intérieur, navi, ocholem chalom, venatan elecha ot. Et il te donne un ot. C'est ce que c'est ot. Ot, ça veut dire un signe qu'il a un pouvoir surnaturel, qu'il annonce quelque chose dans le futur. Ot, Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, demain vont venir les sauterelles. Ou demain, je t'enlève les sauterelles. Ça, c'est un ot, un signe homophète ou un miracle, quelque chose hors nature. Comme Paro, il a dit à Moshe, nous, la chème au fait. Moshe Rabbeinu, il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Ou il a pris de l'eau, il a versé par terre, c'est devenu du sang. Ça, c'est un mot fait. Hors catégorie, hors nature. C'est marqué que les Khartoumim d'Égypte, ils ont fait la même chose. Aussi, ils avaient transformé leur bâton en serpent, aussi ils ont versé de l'eau, c'est devenu du sang. Alors donc il y a un monsieur dans ton intérieur et il dit, j'ai eu une vision du vrai Dieu, au Cholem Chalom, où j'ai rêvé que Dieu me parle. Et il a un message à vous donner. Il m'a utilisé comme porte-parole. Les Juifs, il dit, c'est vrai, vous êtes la porte-parole de Dieu. Il dit, oui. Bien sûr, il a les qualités selon nos yeux que effectivement il est capable. Ça, tzaddik, un chacham, des midot et tout. Jusque maintenant, on ne l'a pas attrapé et qu'il fait quelque chose contre la Torah. Mais Nathan Elecha Ot, donc il t'a donné une annonce pour le futur, au Mofet, où il fait miracle hors catégorie. Ou bah Ot va Mofet, et ce Ot ou ce Mofet sont arrivés, se sont réalisés, Asher Deber Elecha, qu'il t'a parlé, elle est mort. Et maintenant, il dit, Neilcha Acharei Elohim. Allons-y derrière d'autres dieux sur le Yadatam que vous ne connaissez pas, Benoavdem, et on va les servir. Il veut donner une nouvelle religion, un nouveau dieu ou une nouvelle religion. On avait vu dans le chapitre Yutret qu'il y a deux catégories de faux prophètes où il dit à Sherlot Tzivitib, il dit quelque chose au nom de Dieu que Dieu n'a pas demandé. Ou il parle au nom d'un autre Dieu. Il y a deux possibilités. Dans les deux choses, s'il est faux, si ce qu'il dit au nom de Dieu n'est pas donné par Dieu, et nous savons que c'est pas donné par Dieu, soit parce qu'il fait une annonce qui se réalise pas, soit qu'il dit quelque chose au nom de Dieu que Dieu n'a sûrement pas dit, parce que par exemple, il contredit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on savait qu'il était un vrai prophète. Dieu nous a dit que ça, c'est votre prophète. On a vu, Moshe Rabbeinu, Hachem lui a parlé dans sa bouche, à travers lui. Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est votre prophète. Ça, on savait. Donc, un monsieur, il dit, moi, je dis quelque chose d'autre que Moshe Rabbeinu. Donc, on n'a pas besoin de vérifier s'il est vrai ou faux. C'est évident qu'il est faux. L'autre, Ishmael, dit vrai à Nabi Ahou. Il ne faut pas écouter les paroles de ce prophète. Ça veut dire le soi-disant vrai prophète, ce soi-disant prophète autoproclamé. Faut pas écouter. Ou el chalom ha chalom ahou, ce rêveur. Il a rêvé, mais c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Ki menase Hashem Elokechem etrem. Car Dieu va vous tester. Dieu, il est en train de tester. La date, à savoir, haishchem oavim et Hashem Elokechem. Est-ce que vous aimez votre Dieu? Avec tout votre cœur, avec toute votre âme. Ça veut dire quoi? Dieu, il est en train de vous tester. D'où on sait que Dieu veut nous tester? C'est-à-dire la question, elle est. La Torah nous dit, s'il parle au nom de notre Dieu, ou il parle des choses contre Dieu, alors c'est un faux. Mais il a fait un miracle, hein? Il a fait une annonce. Il a transformé le bâton en serpent. Il a transformé l'eau en sang pour autre chose. Alors c'est merveilleux. Les prophètes sont capables de le faire. Bon, il y a certaines choses que même les magiciens sont capables de faire. Mais lui, il l'a fait. Donc s'il a fait, il a reçu le pouvoir de Dieu. Ça veut dire, Dieu, il a donné ce pouvoir à un menteur. C'est étonnant. Mais pourquoi Dieu lui donnera son pouvoir de faire un miracle à un menteur, à un voyou, qu'il le donne à un vrai prophète? Oui, le vrai prophète, c'est le délégué de Dieu. Moshe Rabbeinu fait des miracles et d'autres prophètes. Et pourquoi Dieu lui donnera son pouvoir à un menteur? C'est ça que la Torah va nous expliquer. Tu sais pourquoi Dieu lui a donné ce pouvoir? Qui menace Hashem Elokechem etrem. Car Dieu, il est en train de vous faire un test. La date, Dieu veut savoir. Aishchem Ohavim et Hashem Elokechem. Est-ce que vraiment vous aimez votre Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme? Si vous aimez votre Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme, ce prophète, il va pas vous troubler. Il va pas causer un doute. Mais si jamais vous aimez pas Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, alors là, peut-être ce prophète, il va vous influencer. Alors Dieu, il veut faire un test. Donc, il donne un pouvoir à ce prophète. Donc, ici, la Torah explique pourquoi ce monsieur, il a pu faire un miracle. Derrière votre Dieu, vous devez aller. Suivez Dieu. Ayez peur que de Dieu. N'ayez pas peur de ce prophète. Ça veut dire, il vous fait des annonces que vous allez mourir si vous m'écoutez pas et vous allez rentrer au guéhinnom. N'ayez pas peur. Ou peut-être ce prophète, il a peut-être des adeptes. Et peut-être ces adeptes, c'est des fanatiques. Peut-être ces fanatiques, ils vous menacent. Un faux prophète, s'il a des adeptes autour de lui, il peut les exciter, il peut leur dire, il faut faire peur aux gens pour que les gens me suivent. Dites aux gens de me suivre, sinon, vous allez les tuer peut-être. Alors les Juifs, ils ont la peur. Oh là là, ce prophète, il me menace. Il a des sbires. Il a des fanatiques. Il a peut-être 10 adeptes. Peut-être il en a 100. Peut-être il en a 1000. Peut-être il aura 10 000. Peut-être il aura 100 000. Peut-être il aura 1 million. Peut-être 10, 100 millions. Peut-être il aura 1 milliard. Oui, c'est possible qu'un homme, il peut rendre 1 milliard de personnes derrière lui. Et peut-être parmi ces milliards des adeptes, il y aura peut-être 10 millions de fous furieux qui peuvent menacer les Juifs. Oui, on a déjà vécu des choses comme ça. Alors la Torah nous dit, derrière votre Dieu, allez, allez vers, derrière Dieu, c'est-à-dire Dieu, ce qui est marqué dans la Torah. Voto tiraou, ayez peur de lui, du vrai Dieu. Hachem le Kerem, votre Dieu que vous connaissez. N'ayez pas peur de lui. Faites mitzvot tishmoru, gardez les mitzvot qu'Hachem vous a donné, pas d'autres mitzvot. Si ce monsieur donne d'autres mitzvot, ne l'écoutez pas. Respectez les mitzvot de Dieu. Donc si ce monsieur, il dit, arrêtez une certaine mitzvah, vous ne l'écoutez pas. Vous faites ce qui est marqué dans la Torah. Ou bekolot tishmaru, et à savoir vous écouter. Qu'est-ce que la Torah nous ajoute ici? Écoutez la voix d'Hachem. C'est-à-dire la mitzvot qu'Hachem il a donnée. Ah, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ubekolot tishmaou. Comme Rashi raconte, ça c'est les prophètes, la voix de Dieu travers les vrais prophètes. Dieu, il envoie des vrais prophètes. Et si le vrai prophète, il dit quelque chose, écoutez ce que le prophète, il dit. Parce que le vrai prophète parle avec la voix de Dieu. Lui, c'est pas le Dieu. Ou bekolot tishmaou, écoutez la voix de Dieu qu'il parle à travers les prophètes. Votot avodu, servez Dieu, ou votit bakoun, collez-vous au vrai Dieu. Vanaviyahu, et ce prophète, au cholem achalom ahu, au se réveille, ceux qui rêvent des rêves, yumat, il doit être mis à mort. Qui dit Sarah à la Shem Elokechem, parce qu'il a parlé, Sarah, quelque chose de faux, Sar, enlevé, une bêtise, une n'importe quoi, dit Sarah, quelque chose qui est faux à la Shem Elokechem sur votre Dieu, à moitié être mère Mitzrayim qui vous a sorti d'Égypte, à Potrami Bet Abadim qui vous a libéré de la maison d'esclavage, l'a dit Chacha, il a voulu te repousser. Il voulait te manipuler, il voulait te enlever, il voulait te cogner, minader de la route, à Shotzib que Dieu t'a ordonné la lechetba. Dieu, il t'a ordonné de marcher sur la route de la Torah. Et ce faux prophète, il essaye de te manipuler pour que tu quittes la route que Dieu, il a ordonnée. Ça, c'est un crime. C'est un crime de lèse-majesté. C'est une des pires avérotes qui peuvent exister. Si on l'écoute, Il peut détourner un juif, 100, 1 000, 1 million, on va savoir. Alors, la solution, Yumat, vous devez le mettre à mort. Alors, Ubiar Tahara Mikirbecha, et tu vas effacer le mal de ton intérieur. Voilà, nous avons fait donc ces deux parachiotes qui parlent du faux prophète. Évidemment, ça a existé des faux prophètes. Et ils ont créé des religions. Et bah, des fois, ils avaient une réussite qui durait 10 ans, 20 ans, 50 ans. Après, ils ont disparu. Certains étaient comme des mouches d'un jour. Il y a des mouches qui naissent le matin et meurent le soir. Il y a des faux prophètes qui sont nés le matin et le soir, ils sont morts. Ça ne marchait pas. Mais il y en a certaines qui ont des adeptes et des adeptes et des adeptes. Et ils peuvent peut-être drainer 1 milliard ou je ne sais pas combien, ou 2 milliards de personnes. Et ça peut durer pendant 500 ans ou 1 000 ans. Le prophète, il est déjà mort, mais ses adeptes sont toujours là. Ils peuvent être gentils, ils peuvent être méchants, ils peuvent être ni gentils ni méchants. En tout cas, ils véhiculent ce que ce prophète a dit. Alors, jusqu'à maintenant, tout est clair. Et maintenant, je voudrais demander une question. Nous allons regarder un petit peu de plus près le verset 4, dans le chapitre Yud Gimel, verset 4. On va analyser ce verset un petit peu de plus près. Lotishma, n'écoute pas, elle dit vrai Hanavi Hahu, les paroles de ce prophète. Le prophète qui parle au nom de notre Dieu, ou un prophète qui parle contre la Torah de Moshe, qui dit quelque chose que Dieu n'a pas ordonné, n'écoute pas les paroles de ce prophète. Ou el cholem achalom haou, ou ce qui est rêvé. Alors pourquoi il a reçu le pouvoir? Pourquoi il était capable de faire un hot, une annonce qui se réalise? Pourquoi il était capable de faire un miracle? Qui menaçait Hachem, Elokechem, Etrem. Car Dieu vous teste la date pour savoir Hayishchem ohavim et Hashem Elokechem. Est-ce que vous aimez Dieu b'cholvavchem avec tout votre cœur ou b'cholnafshechem avec toute votre âme? De quoi la Torah parle ici? Aimer Hashem avec tout le cœur, toute l'âme. Où est cette mitzvah? Ça existe cette mitzvah dans la Torah? Oui, dans la Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, Juif, Dieu est notre Dieu, Dieu est unique. Ve'ahavta Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu, b'chol levavcha, avec tout ton cœur, b'chol nafshecha, avec toute ton âme, b'chol monecha, avec tout ton argent. Donc il y a une mitzvah d'aimer Hashem. Il y a un mitzvah d'aimer Hachem et aimer Hachem avec tout le cœur, toute l'âme. Qu'est-ce qu'il se passe à un juif qui croit en Dieu? Il croit en Dieu, il respecte, il a peur de faire le contraire de ce que Dieu il a dit, il accomplit la Torah. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu aimes Hachem? Il dit, aimer, je ne sais pas. Et je crois en lui. Et je respecte et j'applique ces mitzvot. Est-ce que ce juif, il a accompli tous les 613 mitzvot? Non, il n'a pas accompli tous les 613 mitzvot. Il y a une mitzvah qui lui manque. Dieu, il a dit qu'il y a une mitzvah de l'aimer. Il y a une mitzvah de le craindre. Il y a une mitzvah de l'aimer. Ceux qui n'aiment pas Hachem, il a raté une mitzvah. Mais il peut avoir accompli 612 mitzvot. Il fait Shabbat, il mange kasher, il met les tefillin, il met le mezouza, il se marie avec une femme juive, il mange kasher, il met le loulav, le soukha, et le shofar, toutes les mitzvot. C'est un juif religieux. Il manque une mitzvah. Un juif qui fait 612 mitzvot, il dit, j'arrive pas à la faire, la 613, la 13e. Dommage. Mais c'est un juif religieux, c'est un bon juif. Alors, avec tous les juifs, nous allons tous faire 612 mitzvot. Donc, au mieux de faire 613, oui. C'est quand même un bon juif. Maintenant, on va voir ce faux prophète. Qu'est-ce que ce faux prophète, il veut? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, monsieur, abandonnez le judaïsme. Il parle d'un faux Dieu. Un faux Dieu, c'est déraciner toute la Emouna. Nier Kofer HaKol, nier le vrai Dieu, nier la Torah, une nouvelle religion. Mais c'est phénoménal. Qu'est-ce qu'il veut? Mais quoi, Dieu, il veut faire un test. Donc Dieu donne la force à un monteur. Fait, je te donne un pouvoir de faire un hôte ou moufette. Et donc ce de monsieur, il dit, juif, n'écoute pas ton Dieu, n'écoute pas ta religion, je te donne une nouvelle religion, je t'ajoute un autre Dieu. Donc Dieu, il veut faire un immense test, mais pas sur une mitzvah, sur toute la Torah, sur le fondement de la Torah sera remis en question par ce prophète. Donc si la Torah veut nous expliquer, tu sais, pourquoi j'ai donné un pouvoir à ces faux prophètes de faire un miracle, hein? Parce que Dieu, il veut tester si tu aimes Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme. Mais il ne s'agit pas seulement de tester une mitzvah, aimer Dieu avec tout le cœur, tout l'âme. Il s'agit de tester si les Juifs y croient en Dieu ou ils croient en Dieu. S'ils veulent rester dans le judaïsme ou accepter une autre religion. La Torah, elle aurait dû dire autrement. La Torah, elle aurait dû dire, n'écoute pas ce prophète qui menace Hachem Elokechem Etrem, parce que Dieu est en train de vous tester. La date, à savoir, Haim atem ma'aminim b'Hachem Elokechem, est-ce que vous croyez en votre Dieu? Est-ce que vous croyez en la Torah? Ou vous ne croyez pas en votre Dieu? Donc, il fait un test. Si tu crois en ton Dieu, tu ne l'écoutes pas. Et si à ce jour, mais il ne croit pas en Dieu, alors il peut écouter ce faux prophète. Ou la Torah peut dire, est-ce que vous croyez en Dieu avec tout votre cœur et toute votre âme? Imaginez un homme, il croit en Dieu, mais pas avec tout le cœur. Alors peut-être Dieu veut tester ce monsieur. Je veux vous envoyer un homme qui parle contre Dieu, contre la Torah, et il veut voir si vous croyez en Dieu avec tout votre cœur ou pas avec tout votre cœur, avec la moitié. Et si vous croyez à ce jeu-là pas entièrement, alors ce faux prophète, il peut créer un doute et il va peut-être voir, il veut voir si tu crois vraiment. Or, la Torah ne parle pas de croire en Dieu. La Torah ne parle pas si tu vas suivre la Torah ou pas. Le test est autre chose. Dieu va vous tester si vous aimez Hachem avec tout votre cœur et toute votre âme. Comme si le test, il est sur une mitzvah, pas sur toute la Torah. Or, ce Dieu, ce faux prophète, n'a pas demandé aux Juifs, n'aimez pas Hachem avec toute votre âme. Mais continuez à faire toute la Torah. Imaginez-nous, ce prophète, il va dire, faites la Torah, croyez en votre Dieu, faites toute la Torah, mais ne l'aimez pas avec tout le cœur, toute l'âme. Dans ces cas-là, le test aurait été sur ce point. Mais la Torah n'a pas dit qu'il a dit ça. La Torah le dit, il parle au nom de notre Dieu, tant qu'il veut faire tomber tout le judaïsme des Juifs. Alors pourquoi la Torah nous parle d'une mitzvah? D'aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme. Ça, c'est la question. Alors, en vérité, il y a une autre question. Et pas seulement une question, une double question, une contradiction. Il y a une grande contradiction. On va demander une question. Chaque juif, il sait que Dieu a donné la Torah à Harsinaï. Il a sorti les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu l'a opéré des choses que ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. On n'a jamais entendu les miracles qui étaient en Égypte. Dam, Tsfardeya, Kinim, Arov, Kriat Yamsouf. Toutes les annonces que Moshe a faites, toutes les prodiges qu'il a faits. Matan Torah, Dieu nous a parlé, 600 000 personnes. Et ça fait 2-3 millions de gens, ils ont entendu Dieu parler. Ça existe un prophète qui peut produire un millième de ça? Évidemment que non. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire les Égyptiens? Ils ont transformé un serpent, un bâton en serpent, oui. De l'eau, un verre d'eau en sang, oui. Et dès qu'ils arrivaient à la troisième, c'était foutu. Et c'était un quelqu'un. Mais Moïse Rabbeinu le fait dans tout le pays d'Égypte. Et pas un verre d'eau. Il a transformé le Nil. Dans 7 jours, tous les magiciens, ils ont dit, chaos, nous sommes chaos, c'est Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'existe pas la magie, ne peut pas faire des choses comme ça. Qu'un vrai prophète comme Shmuel HaNavi, chaque chose qu'il est dit dans le futur, toujours ça s'est réalisé. Tous les augures, tous les voyants, tous les boules cristal et tous les chercheurs de bonnes aventures chez les morts et chez les vivants, une fois ils disent juste, deux fois ils disent juste, même si 9 fois ils disent juste, la dixième fois il va dire n'importe quoi. Même s'il aurait dit 99 fois, la centième fois, il va se tromper. La vérité, il ne se trompe pas qu'une fois, il se trompe beaucoup de fois. Il doit les dire aux choses au nom de Dieu. Alors, évidemment, il n'y a aucun risque qu'il va arriver un homme qui va faire des choses, même un millième de ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle a peur? Qu'un juif, il va se faire tromper par un faux prophète, et tout le monde, il va rigoler. Faites ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Vas-y, faites. Et ça, les Juifs, ils ont toujours demandé. Tout ce qui essayait de nous séduire, les Juifs, ils ont dit, quoi, Dieu vous a parlé vers une nouvelle religion? Eh ben, qu'il allume une montagne, qu'il y a un feu qui va jusqu'au cœur du ciel, et faites-nous écouter qu'il y a une nouvelle Torah, en disant que la Torah de Moshe Rabbeinu est tombée désuète, elle n'est plus applicable, on change, et bien que Dieu nous parle. Toi, Dieu a parlé avec vous et pas avec nous. Mais il n'est bien pas. On raconte, il y avait un homme, il est parti chez un autre, il est dit, tu me dois 100 000 euros. L'autre dit, je vous dois rien du tout. Il est dit, viens au tribunal. Bon, les deux sont partis au tribunal. Alors le tribunal, il dit, vous voulez quoi, monsieur? Ce monsieur me doit 100 000 euros. Demandez-lui de payer. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je lui dois rien du tout. Parole contre parole. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est parole contre parole? Qui est-ce qui gagne? Qu'est-ce que le tribunal va faire? Amotsi Ce qui veut faire sortir l'argent de la poche de l'autre, c'est à lui de prouver. Le Bedin va dire, monsieur, prouvez que l'autre, il voit de l'argent. Il dit, comment voulez-vous que je le prouve? Par exemple, apportez des témoins, apportez deux témoins qui témoignent que vous avez prêté. Alors il dit, d'accord, je vous apporte deux témoins. Bon, apportez-le, mais ils sont là, les témoins. Ah bon? Bon, déjà un témoin, il est déjà là. Et qui c'est ce témoin? Dieu. Dieu, il est témoin? Oui. Dieu, il me témoigne qu'il me doit d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le tribunal? Mais Dieu n'a pas parlé. Ou Dieu a fait un témoignage? Il dit oui, Dieu vient de dire qu'il me doit 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Dieu a parlé, j'ai pas entendu. Alors, ce réclamé, il dit, mais moi, je l'ai entendu. Mais moi, je l'ai entendu. Dieu m'a dit que l'autre, il me doit 100 000 euros. Donc, Dieu, il est témoin. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Ce que va dire le juge. Attendez, c'est vous que vous devez écouter ou le juge doit écouter? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? L'autre, il dit, vous dites que je vous dois et Dieu le témoigne, eh bien que Dieu me le dit à moi, pourquoi il dit à vous? Mais vous êtes un farceur. Dieu il parle à vous. Tu veux apporter des témoins devant un tribunal, eh bien que Dieu il parle devant les juges. Non, Dieu ne veut pas parler devant le juge. Vous ne méritez pas que Dieu vous parle. Il n'y a que moi qui mérite qu'il me parle. Et monsieur, il doit me payer 100 000 euros. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Bedin? Monsieur, on a d'autres choses à faire dans la vie, monsieur. Oui. Et parle à vous. Vous ne pouvez pas prouver ça. C'est pas un témoignage. Tous ces faux prophètes, ils travaillaient pas mieux que ça. Dans leurs livres et dans ce qui a fait la religion il y a 2000 ans. Eh ben, les Juifs l'ont demandé. C'est vrai que Dieu, il a donné une nouvelle Torah par la Torah de Moshe. Il a dit oui. Mais d'où vous savez? Mais Dieu me l'a dit, il a dit, Dieu m'a dit. Les Juifs, ils ont dit, attendez. Les Juifs, ils ont entendu la Torah Har Sinaï, de la bouche de Dieu. Une montagne qui brûlait jusqu'au ciel, où il y avait des tonnerres, du feu et des flammes, un épais nuage, et il y avait un peuple qui a écouté comment Dieu parle. Eh bien, faites un Har Sinaï. On va écouter que Dieu dit, fais une autre Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est marqué dans leur livre, je l'ai inventé. Hein. Il leur a dit, il est vrai que Dieu n'a pas allumé ici le Har Sinaï. Il ne vous parle pas. Mais je vous assure qu'au ciel, il y a ce Har Sinaï. Et au ciel, il y a une montagne qui brûle et qui dit que je dis vrai. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout est dit. La messe, elle est dite. Au ciel. Au ciel. Mais il n'y a aucun juif qui va gober cette blague. Qui va gober cette blague? Pourquoi la Torah, elle a peur? La Torah, elle a peur, elle fait un test. Mais les juifs, ils se moquent de ça. Ça, c'est une question. Et maintenant, il y a une question. Le contraire. Nous avons vu que beaucoup de Juifs, malheureusement, ont changé la religion, malheureusement. Pas aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 100 ans, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000. On a vu des Juifs dans chaque génération. Ils ont changé, rahmana letzlan, leur religion. Mais combien des Juifs? Combien des Juifs sont devenus ça et devenus ça? Comment est-ce possible? Mais qui est ce fou? D'un côté, on peut même pas imaginer qu'un Juif se fait avoir avec ses... Et de l'autre côté, on a vu que oui, il y a des Juifs pour un truc et des Juifs pour machin. Comment c'est possible? Ces deux questions, les dernières deux questions, répond la première question. Le passo qui répond cette contradiction. Le pshat, il est comme ça. Dieu, il demande, aimez Hachem avec tout votre cœur et toute votre âme. Et Dieu, il veut tester à quel point vous aimez. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pendant l'Inquisition? On va prendre un exemple. Pendant l'Inquisition, sont venus l'inquisiteur en Espagne. Ils ont dit aux Juifs, écoutez, il faut devenir une autre religion. Les Juifs ont dit non, on fait ce que Dieu nous a dit. Ils ont dit, vous savez qu'est-ce que c'est un bûcher? Vous savez qu'est-ce que c'est du bois? Vous savez qu'est-ce que c'est du feu? Vous savez, vous voulez tomber? Vous voulez qu'on vous jette sur le bûcher? Il fait dit non, je veux vivre. Alors ils ont dit, si vous voulez vivre, vous changez votre religion. Venez chez nous et vous allez vivre. Sinon, ce sera le bûcher. Je raccourcis, c'est plus compliqué que ça. Des fois, c'est le bûcher, c'est toutes sortes de pressions, toutes sortes de menaces, d'argent, de fourrés, des coups, etc. C'est un grand truc. J'abrège l'histoire. L'histoire, elle est longue et grande. Mais en abrégé, c'est où le bûcher, où tu renies ta religion. Quelle était la réponse des Juifs? Il y avait deux sortes de réponses. Il y en a qui ont dit, moi je suis juif et je préfère de mourir comme juif et pas renier ma religion. Ça, c'est une partie. Et ce chemin, il y a des milliers, des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de Juifs qui ont pris ce chemin. Il y avait d'autres, ils ont pris l'autre chemin. Ils ont dit, d'accord, on accepte ce que vous dites. Au début, pour tromper le goy, avec le temps, certains comme ça, comme ça. Ils sont devenus des maranes. Il y en a qui ont commencé à croire après. Il y en a qui sont revenus au judaïsme après. Pourquoi ils ont raisonné comme ça? Parce qu'ils aimaient la vie. Ils aimaient la vie plus qu'ils aimaient Hachem. Dieu fait un test. Est-ce que tu aimes Hachem avec tout ton cœur, toute ton âme? Où il y a quelque chose que tu aimes plus. Si un juif, il aime quelque chose plus que Dieu, il aime son âme, sa vie plus que Dieu, et après il dit, bon d'accord, j'accepte ce que vous dites. Une fois qu'un juif, il dit, j'accepte ce que vous dites, il veut quand même un petit peu, une très légère preuve au moins. Alors, un trip qui fait un miracle, on le raconte à longueur de journée, ce monsieur fait des miracles, il fait des miracles, il y a des miracles, il y a des guérisons et toutes sortes. À la fin, les Juifs, ils se disent, bon, peut-être il y avait un peu vrai dedans. Il a fait automoufet. Le automoufet seul peut pas troubler le Juif dans sa foi. Mais quand il est menacé à mort et il aime sa vie plus que Dieu et il a un doute, j'écoute Dieu ou j'écoute ce que ce missionnaire me dit, il veut m'enlever. Maintenant j'ai deux choses, mais j'aime, je voudrais vivre. Alors, il faut que j'accepte quelque chose. Il y a une petite preuve. Un soi-disant, une soi-disant idée qui ressemble à la Torah, on peut peut-être oui marcher avec ça. Et avec le temps, à la fin, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et quand un homme il commence à faire des averot, quand un homme il commence à marrer le Shabbat, il commence à manger chazir, au début, pas par volonté, contre sa volonté, mais parce qu'il aime sa vie plus qu'il aime Dieu. À la fin, on vit comme un goy. À la fin, on raisonne comme un goy. Ça, c'est pour la vie. Mais il y a beaucoup d'autres cas. On n'a pas besoin d'arriver à l'Inquisition. Il y a 150 ans, quelqu'un, il voulait à Moscou aller à l'université. Il voulait devenir médecin. Il voulait devenir ingénieur. Il voulait devenir avocat. Il voulait rentrer dans la société goy. En Russie, en Allemagne, dans beaucoup d'endroits, il fallait d'abord donner des garants. À Moscou, il fallait dire on est chrétien, sinon on n'était pas accepté. À Berlin, il y avait des moments, il fallait dire il est goy. Il fallait se comporter comme un goy, sinon on n'est pas accepté. Et le juif, il dit, j'aurais voulu garder mon judaïsme, mais je ne peux pas devenir médecin. Mais moi, je veux avoir le gloire de médecin. Je veux devenir, faire partie des gens de la cour du roi. Je veux jouer un rôle important. Si je garde la Torah mitzvot, j'ai pas accès. L'ascenseur social dépendait de si je reste un juif religieux. On n'avait pas d'ascenseur social. Si un homme il voulait gagner beaucoup d'argent, ou il voulait être honoré par le goy, ou il voulait avoir un métier important, tout ce qui est considéré comme important, il était obligé d'échanger quelque chose. Et on lui a donné comme garantie, tu as, il y a aussi un prophète chez nous, tout s'est raconté de ces choses-là. Imaginez-nous autre chose, un juif voulait se marier avec une goya. Et il vient chez le rabbin, il dit, marié avec un goya, Rahmana Letzlan, Mais tu sais que la Torah ne veut pas ça. Il dit, oui, mais j'aime cette Goya. Et le rabbin, il dit, mais il faut aimer la Torah, il faut aimer Hachem. Et il dit, mais j'aime la Goya plus qu'Hachem. Ah, il aime la Goya plus qu'il aime Dieu. Je veux être un juif religieux. Je veux faire Torah en mitzvot, je veux manger kasher. Mais j'aime cette Goya, Rachmana Letzlan. Oui, mais il faut aimer Dieu. Oui. Mais j'aime cette Goya plus. Voilà le Nissayon. Combien des Juifs sont changé la religion pour une femme ou pour un homme? Une fille juive. Un gars, il vient, il tourne la tête, elle tombe amoureuse. Elle veut la Torah. Torah, elle est vraie. Mais j'aime ce goy. Là, c'est ça que la Torah nous raconte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Nous allons continuer à verser. Il va se dévoiler autre chose dans cette sourire. On va regarder le verset 5. Nous sommes chapitre 13, verset 5. On va lire le verset. Acharei Hashem Elokechem Telechu. Derrière votre Dieu, vous allez marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous traduisez ces mots? Derrière votre Dieu, vous marchez. Ça veut dire quoi? Derrière les ordres de Dieu. C'est-à-dire faire la Torah aux mitzvot. Oui, mais ça, c'est marqué après. Ototira, vous craignez Dieu, mitzvotav et vous respectez ces mitzvot. Donc, le respect des mitzvot, c'est marqué après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Acharei Hashem Elokechem Telechu. Derrière votre Dieu, vous allez suivre votre Dieu. En quoi? En faisant le mitzvot. Alors, la Torah, elle aurait pu sauter les mots. Acharei Hashem Elokechem, elle aurait dû dire, dites mitzvotav tishmaru. Qu'est-ce que ça veut dire, Hashem Elokechem Telechu? Et à la fin du verset, qu'est-ce qu'il est marqué? Ubotit bakun, et collez-vous à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire coller à Dieu? On peut se coller à Dieu, on prend de la colle, on se colle. Et la Gemara nous dit, Dieu, c'est un feu qui dévore. On ne peut pas se coller à du feu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous avez Rashi devant vous, Ubotit bakun. Comment Rashi traduit? Ubotit bakun, vous allez vous coller à Dieu. Hidabek bidrachav. Colle-toi au comportement de Dieu. Gemol chassadim, fais du gmilot chassadim. Sois gentil avec les gens. Don tzedaka, aide aux gens. Sois avenant. Parle correct avec les gens. Fais du gmilot chassadim. Kvor Meitim, quand il y a un mort, il faut l'enterrer. Baker Cholim, visite les malades. Comment chez Asa Akadesh Baruch Hu? Tout Rashi connaît ce pshat. Upotit Bakun. Des fois, dans la Torah, c'est marqué Botit Bak, c'est s'attacher au Tamid Chachamim. Ici, Rashi raconte, comporte-toi comme Dieu, Gmilut Chassadim, Bikur Cholim. D'où Rashi prend ça? De la Gemara Sota. La Gemara, elle est un peu plus en longueur vis-à-vis du début du verset. La Gemara dit dans Masechet Sota 14a, Acharei Hashem Elokechem Telechu, marchez derrière Dieu, ça veut dire comporte-toi comme Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il a Rachmanout. Dieu, il fait Gmilut Chassadim. Il s'occupe des malades, il s'occupe des pauvres. Il est gentil avec les gens, Dieu. Très gentil. Fais comme Dieu. Ça, c'est la traduction. Acharei Hashem Elokechem Telechu. Ubotit Bakun, Rashi dit, et colle-toi à lui. Fais très attention, colle-toi au comportement de Dieu, dans sa gentillesse, dans sa miséricorde. Comme ça dit la Gemara, ça c'est ce que Rashi rapporte. Alors ici, il y a une grande question. La mitzvah de faire Gemilut Chassadim, de faire de la tzedaka, de visiter malades, etc. C'est une mitzvah dans la Torah qui est marquée ailleurs aussi. Pas seulement ici. Un juif, il doit s'initier. Mahu rachum, fata rachum. Mahu chanun, fata chanun. Comme Dieu, il parle gentiment avec les gens. Parle gentiment avec les gens. Dieu, il a pitié, il est mechabed les gens. Il donne des habits pour des gens qui n'ont pas d'habits, donne des habits aux gens, etc. Ça, c'est une mitzvah. Indépendamment d'un faux prophète. On n'a pas besoin d'un faux prophète pour nous rappeler ces choses. Évidemment. Pourquoi ces comportements sont cités ici quand on parle d'un faux prophète qui vient? Pourquoi c'est ici que la Torah ajoute encore une fois? Rabotai, ici, la Torah nous dit quelque chose de très, 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 très important. Qu'est-ce qu'il se passe? On va prendre un cas très simple. Un pauvre juif, il frappe à la porte, puis ouvre la porte. Bonjour, monsieur. Je suis un pauvre. Est-ce que vous pouvez me donner 1 euro, 5 euros, 10 euros pour acheter un morceau de pain? Tu lui donnes, ou tu le fais rentrer à la maison, tu lui donnes à manger. Il est fatigué. Dormez dans votre lit, dans un lit, quel genou, vous pouvez dormir ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe, un pauvre juif qui frappe à la porte, ou qui va à la choule, ou que tu rencontres dans la rue, au restaurant, et dit, j'ai pas où dormir, est-ce qu'on peut m'aider, me donner de l'argent? Imaginons, les juifs, ils donnent pas. Non, je fais pas de Milut Hasadim. J'ai pas d'argent pour vous, j'ai pas d'énergie pour vous, j'ai pas le temps pour nous. Laissez-moi tranquille. Et ce pauvre juif, il va chez un autre juif. Imaginons, le deuxième juif dit la même chose. Et le troisième juif dit la même chose. Et ce monsieur, il va dormir sans manger. Il va pas dormir dans un lit. Il va dormir dans un couloir, il va dormir à la gare, il va dormir dans un escalier. Un jour, 2 jours, 3 jours, il va manger dans les poubelles. Imaginons-nous ce juif-là, il continue à marcher après une semaine et il va se marquer caisse de bienfaisance. Ah, caisse de bienfaisance. Il va frapper à la porte. Bonjour monsieur, j'ai faim, vous me donnez à manger? Imaginez-nous, ils vont dire, oui, évidemment, nous sommes là pour ça. Vous êtes qui? Je suis, je sais pas, monsieur Cohen, monsieur Lévi. Vous êtes Cohen, vous êtes Lévi, vous êtes juif? Oui. Il verra un sourire. Il verra un grand sourire. Venez chez nous. On va vous donner. Je ne veux pas raconter toute l'histoire qui est arrivée chez un ou deux ou trois juifs et tout le scénario de quelqu'un, si à ce jour les juifs font pas Gmilut Hasadim, et le goy, ou une organisation, ou visiter un malade, les faux prophètes, ils ont un système. Les adeptes des faux prophètes, ils ont un système qui s'appelle Gmilut Hasadim. Quand on n'est pas gentil avec quelqu'un, ça peut être pour l'argent, mais je vais aller plus loin que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des gens qu'on n'est pas gentil avec eux. On n'a pas Rachmanout. Les gens, pas seulement des étrangers, ça peut être vis-à-vis de ses propres enfants. Un père, il peut être dur parce qu'il doit éduquer son enfant. Et il veut un fils qui est parfait. Si le fils n'est pas parfait, ou le fils, il énerve le père, ou il joue ballon et le père ne peut pas dormir, et le père, il crie parce qu'il est nerveux. parce qu'il supporte pas le comportement, il supporte pas le fils, il est pas comme il aurait voulu. Ou il apporte de l'école des notes qui ne sont pas bien. Ou le père, il a honte de son fils ou de sa fille. Et il y a mille raisons. Parce qu'il croit que ça, c'est la manière de parler avec un enfant, de le brusquer et d'être dur avec lui, sans miséricorde, sans gmilotrasadim. Et ce fils, il est comme dans une prison. Mon père me rend fou. Il me crie, il me vexe, il m'insulte. Il me renvoie. C'est pas agréable chez moi. Qu'est-ce qui se passe, ce fils? Il est renvoyé, même s'il n'est pas renvoyé. Il souffre silencieusement et le père ne remarque rien. La mère ne remarque rien. Ou elle remarque, elle essaye de corriger le père. Le père, il dit non, il faut que je fasse de lui un bon juif. Et il fait de lui un garçon amer, déçu. Et un jour, ce fils, il fait une fugue, ou pour un jour, ou pour quelques heures, ou pour une semaine, il rencontre d'autres personnes, des copains de l'école, des copains des rues, des voisins d'autres. Et il accueille gentiment. Et imaginons le fils, il a fait des vraies bêtises à la maison ou des faux bêtises où il n'a rien fait. Il a accueilli chez des autres. Il a accueilli gentiment. Ils sont gentils avec lui. Et lui, il dit, mais c'est pas des juifs. Ils n'ont pas Torah ou Mitzvot. Ils ont une religion qui s'appelle comme ça. Il y a toutes sortes de mouvements et des sectes. Et des demi-sectes et des religions et des... Mais ils sont gentils. Et on lui dit, tu sais, nous avons, vous les Juifs, vous avez des prophètes, vous avez une religion. Nous avons aussi, on a des prophètes. Ils savent faire des miracles, ils ont fait des miracles et ils ont de promesses sont réalisées. Et il y a des milliards des adeptes. Et lui, le fils, ils se sentent bien chez eux parce que ils ont souffert quand ils étaient juifs. Parce que les parents ou le prof à l'école ou le melamed à l'école ou le rabbin de la communauté ou le prof, il a parlé dur, il n'était pas gentil, il ne s'est pas comporté comme la Torah nous dit. Chassadim, avec douceur, Baker Cholim visite les malades, parle gentiment avec les gens. On ne se pas parté comme ça. Là, ce fils-là, il risque de tomber dans la main d'un faux prophète ou d'un adepte ou adepte, 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 d'un faux prophète. C'est quoi la solution? Un homme, il aime quelque chose, peut-être plus qu'il aime Dieu. Il peut aimer la Goya, il peut aimer l'honneur, il peut aimer l'argent, il peut aimer la vie. Il aime quelque chose, il est en danger. Mais il y a un autre danger. Il y a un autre danger. S'il manque une vie agréable dans la maison du juif, dans la communauté juive, dans l'école juive, dans le restaurant juif, dans un, il est, mais imaginons-nous autre chose. Un juif, il subit un affront en public. Un juif, on l'insulte fortement. Et c'est un juif, peut-être, il se comportait mal, mais il était juif. Il faisait la moitié de la Torah. Peut-être trois quarts, peut-être un quart, peut-être 9/10, peut-être à 100%. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'il y avait un clash. Et dans ce clash, on dit, ce monsieur, Vous devez faire teshuva. Mais il y a différentes façons comme on parle. On peut hurler sur quelqu'un. On peut lui crier. On peut lui faire honte. On peut le foutre dehors. Et ce monsieur, il peut dire, comme ça, mes frères, de mon chair, mon sang, comme ça, il se comporte avec moi, je vais aller ailleurs. Il y a un Rashi dans Mesechet, dans Parashat Devarim. Ouvrez, si vous avez Chumash Devarim devant vous, nous allons lire ensemble un Rashi, tout au début de Parashat Devarim, le troisième verset. Le troisième verset, il dit, le Dvarim, Parshat Dvarim, Vahi Barbaim Shana, et ce fut la 40e année, Bachter Sachodesh Bechat, la Chodesh, le 11e mois, Tiber Moshe le Bnei Israël, Kvola Shartiva Hashem, Dieu, Moshe Rabbeinu, il a parlé. Je lis Rashi. Vahi Barbaim Shana, Bachter Sachodesh, Melamed, ça nous apprend, Shelo Chichan, El Asamuch Lemita. Moshe n'a pas dit de reproche aux Juifs, seulement proche de sa mort. Un mois avant sa mort, il a commencé à faire des reproches, des grosses reproches. Mimi l'a de qui il a appris, mais Yaakov, selon Riach et Banap et le Samouch Lemita. Yaakov Avinu n'était pas content de Rouven, de Shimon, de Lévi, ils ont fait des gaffes. Mais il leur a rien dit. Samouch Lemita seulement avant la mort. Alors, Amar Rouven, Bini, Bini, Ani Omer Lecha, Mipnemal, il a dit, Rouven, je veux te dire quelque chose. Pachaskama, tu aurais dû être le roi, le Kohen Gadol. Mais tu as raté les choses avec l'histoire que tu as fait. Je l'ai gardé sur mon cœur, je t'ai rien dit depuis 60 ans, je t'ai rien dit. 40 ans, je me rappelle pas combien. Pourquoi je t'ai rien dit? Maintenant, avant de mourir, je te le dis. J'avais peur que si je te rentre dedans, tu vas m'abandonner et tu vas te coller à Esav, mon frère. Yaakov Avinu, il a un fils, Tzadik Rouven, mais il a fait une gaffe. Yaakov, il a dit, je veux lui tirer les oreilles, Rouven. J'ai peur de lui tirer l'oreille. Si j'ai dit à Rouven, tu sais, tu as fait un immense gaffe. J'avais peur de toi, Rouven. Tu vas dire, papa, tu me prends pour un nul. Je supporte pas. Je te quitte. Tu vas aller où? Chez ton frère Esav. Et ils savent, l'assassin, l'idolâtre, je supporte pas papa. Il va être gentil avec moi, Essav. Il aura pitié de moi. Mais Essav, il se comporte comme un goy. Je supporte pas papa. Yaakov vient et dit, je dis rien. Avant de mourir, je lui crache. Après, je meurs. Et Rashi continue à dire, il y a quatre raisons pourquoi il ne faut pas faire Tochacha proche de la mort. C'est-à-dire, il faut faire Tochacha gentiment, en petite mesure, mais pas rentrer dedans fort. Pour quatre raisons. Que des Mouchicho, pour pas être obligé de le dire deux fois. On ne peut remettre quelqu'un en place comme il faut qu'une fois dans la vie, pas deux fois. On peut pas. Si tu fais deux fois, il est, comme on dit en français, il est capable de péter un plomb et chercher une tout à fait autre route. Une fois dans la vie, alors tu le fais 5 minutes avant de mourir. Et, pour pas qu'il a honte. Si tu dis à quelqu'un les quatre vérités, la prochaine fois il te verra dans la rue, il aura honte de toi. On n'a pas le droit de faire honte. Faire tochacha, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tmihani, je m'étonne. S'il existe dans notre génération quelqu'un qui sait faire un tochacha correctement, faire comprendre à l'autre ses erreurs sans qu'il a honte. Si tu le fais d'une façon que ça lui fait honte, tu attends avant de mourir de lui dire. Et après tu disparais, et après l'autre, il n'a pas honte, il peut se reconstruire. Mais si tu lui dis ça trop tôt, il ne pourra pas supporter. Un père, il dit à son fils, mais mon fils, tu n'en vaux rien. Tu n'as pas le droit de dire deux fois. Il faut pas qu'il te voie après. Il aura honte de toi. Tu peux pas le dire. Il va aller chez son oncle. Chez le contraire, Yaakov et Esav. Le fils, il est capable de se coller chez Esav. Il risque d'aller chez le curé. Ton père, le père, il est le rabbin. Le père, il est rabbin. Il dit à son fils, tu n'en vaux rien. Eh bien, je vais aller chez le missionnaire. Lui, il dit que je suis un bonhomme. On joue très, très grand. Très grand. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Et je vais dire trois choses que la Gemara nous raconte, qui sont marquées dans le Chumash. Les drames qui sont arrivés parce qu'il y en a quelqu'un qui a fait honte à l'autre en public pour dire Tochacha. Celui qui a créé le christianisme, quelle était l'histoire? Quelle expérience il a fait? La Gemara pleure dessus sur une erreur qui était faite. La Gemara nous raconte qu'il était d'abord un Bachori Shiva. Et après, il avait un comportement qui n'était pas adapté. Et son maître, qui était le Gadol Rabbi Yehoshua ben Kor Brachia, il l'a mis dehors. Mais il l'a mis en dehors de la yeshiva. Il y avait 300 bachorim, avrechim, 300 élèves. Ils ont pris 300 chauffarot. On a sonné le chauffard. Il était maudit. Et il se fait jeter de la yeshiva. Ils l'ont maudit, cet homme, Arasha Marusha. Et lui, il est parti, il a fabriqué sa petite cuisine. Ah, il a fait une autre sorte de judaïsme. Et la Gemara pleure. La Gemara dit, il a fait une erreur, le maître. Il fallait le peut-être renvoyer de la yeshiva. Mais pas comme ça. Gentiment. Autrement. Pas comme ça. Mais la Gemara nous raconte, la même erreur était faite par un plus grand que Rabbi Joram et Prachia. La Gemara pleure sur le prophète Elisha, qui avait un élève qui se comportait mal, et Elisha lui a donné une malédiction. Il a dit, tu seras lépreux, toi et tes enfants à jamais. Et Gehazi est parti, il est devenu curé, il a séduit les Juifs, Kishef. Il a fait de la magie, il a travaillé jour et nuit pour détourner les Juifs du judaïsme pour se venger. Mais il y a un plus grand exemple, très délicat. Très délicat, on n'a pas le droit de parler. Même sur Rabbi Joram Brachia, on n'a pas le droit de parler. Même sur Elisha, ils avaient des calculs et c'était faux. Mais il y a une autre histoire avec la plus grande tzaddiké du monde, la femme la plus grande tzaddiké du monde et le plus grand tzaddik du monde. Et la Gemara nous prend un microscope. Sarah Imenu a dit à Abraham, marie-toi avec Hagar. Et peut-être ce sera va aider. Et Agar se marie avec Abraham, elle est tombée enceinte tout de suite. Dès qu'elle est tombée enceinte, Agar a dit, Sarah est une hypocrite. Ça fait 50, 60, 70 ans, elle vit avec Abraham, elle n'a pas d'enfant. Moi, depuis que je suis mariée, je suis enceinte. Dieu m'aime, moi, plus que Sarah. Sarah, c'est une voyelle, c'est une hypocrite. Et Sarah, elle a entendu ça, elle est partie chez Abraham. Il a dit, il faut la remettre en place. C'est terrible. C'est une nouvelle convertie depuis 24 heures. Elle me méprise, moi. Sarah a été une prophétesse, la plus grande tzaddiké du monde. Et c'est Agar, elle vient d'arriver d'où? Elle dit, moi je suis Elle veut me détourner tous mes élèves, étant Haran, elle veut me détourner. Avram, il faut que tu le remets en place. Avram, il dit, non, je ne veux pas lui parler. Avram, il avait peur parce que Hagar portait son futur fils Ishmaël. Et si je dis, je vexe Hagar, son fils, il va me détester. Et il va pas accepter ma Emouna. Je ne peux pas me permettre de remettre en place Hagar. Non, moi, je fais rien. Ils se sont disputés, Abraham et Sarah. Et Abraham, il a dit, fais ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a vexé. Vatane à Sarah, elle a vexé Hagar. Elle a vexé. Trop. Elle n'a pas remis en place comme il faut. Elle a trop vexé. Elle s'est sauvée. Et le Ramban, il dit, si le Ramban l'avait pas dit, on n'aurait pas pu le dire, le Ramban, il dit, Sarah, elle a fait une faute, elle a trop vexé Hagar. Et Abraham, il a fait une faute qu'il a laissé Sarah tellement vexée. Ça veut dire ce personnage a pris. Le Ramban, il dit, nous avons des problèmes avec eux. Ces conséquences, c'est parce que Hagar, elle a transmis à son fils, tu sais, la mère de Yitzhak, il m'a vexé. C'est marqué dans le Chumash. Et eux, ils détiennent une tradition que Sarah, elle a vexé. Sarah, la prophétesse, la tzaddiket, elle a trop vexé. Les Juifs sont attachés à Dieu. Il faut aimer Hachem avec tout le cœur, toute l'âme, plus que la vie, plus que l'argent, plus que l'honneur. Mais il faut faire gmilut chassadim, il faut être la douceur. La Torah nous dit, pour éviter la catastrophe que Chas v'Shalom, les Juifs seront influencés par les idées de ces gens-là, il faut faire gmilut chassadim, ma'u rachum, afata rachum, ma'u chanun, afata chanun. Comme Dieu, il visite les malades, visitez les malades. Soyez attachés à Dieu. Et pas seulement vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes petits-enfants, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de le membre de la communauté. À l'intérieur, chez nous, parlez avec douceur. La Gemara, elle appelle ce proverbe L'olam yehi Adam, mekerev biyemin, bismol. Il faut rapprocher, il faut être plus gentil que critique, et critiquer, il faut être mesuré. Mais l'amour, la gentillesse doit être beaucoup plus. Critiquer sans amour, ça, c'est un danger. À Yaakov Avinu, il ne voulait pas dire à Rouven ce qu'il pense de lui. Et même à Shimon Velevi, il voulait pas dire. Il avait peur qu'il va partir chez Esav. Les enfants, des fois, il y a des enfants de famille religieuse. C'est tragique. Mais c'est pas nouveau aujourd'hui. Ça existera seulement aujourd'hui. Ça existait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. Ça existait chez des familles des rabbanim. On trouve que c'est des enfants sont partis ailleurs, mais vraiment ailleurs. On trouve un phénomène dans la Torah. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Esav, il a fait les 400 coups. Et c'est marqué dans la Torah, les femmes d'Esav, Vaïtenu morat ruach, le Yitzhak ou le Rivka. Yitzhak, quand ils ont souffert, l'enfer par les femmes d'Esav. Est-ce qu'on trouve un mot dans la Torah, que Yitzhak, un jour, il a fait un mot à Esav de reproche. On trouve rien, rien, rien. On trouve seulement, Vayehav, Yitzhak et Esav, Yitzhak et Bepif. Yitzhak, il a aimé Esav. Yitzhak, il était bête. Il se trompait. Il croyait qu'Aesop, c'est un tzaddik. Mais non. Aesop, il était Aesop. Et Yitzhak le savait. Il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Pour sauver les meubles. Parce que s'il dit à Aesop de Moussard, Aesop va carrément tuer Yaakov. Ou tuer le père. Il y a des enfants, on ne peut rien dire, il faut rien dire. Pour pas qu'il devienne pire. Il a rien dit et ils savent, il a respecté Yitzhak. Mais il est devenu Aïssa, mais c'est possible, il aurait pu devenir pire encore. Il y a pire qu'Aïssa. Il a rien dit, il avait peur qu'il va devenir encore pire. La douceur, le small d'Ocha, la main gauche repousse, mime karevet, c'est le plus, c'est vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des gens proches de nous. Nous avons beaucoup de gens, ils ont une faiblesse de croire. Plus que ces gens-là sont proches, plus je peux me permettre une manque de douceur. Aux étrangers, vis-à-vis des étrangers, je dois me tenir au carreau, je dois pas lever la voix, pas les crier, pas les vexer. Ma femme, c'est ma femme, j'ai le droit de traiter comme je veux, elle est à moi, non? Soi-même, il se traite pas comme ça. Il traîne sa femme. Il parle avec elle pas correct. Mes enfants, c'est mes enfants, j'ai le droit de leur parler. Je dois leur parler dur. Je dois leur crier. Et il y en a qui crient 30 fois par jour. Elle crie, elle. Et le fils, par respect du père, à qui Bouddha va aimer, par une gentillesse innée, il se tait. Et il est amer, un jour, un mois, un an, 10 ans, 15 ans, jusqu'à terminer, fini, le fils, la fille, partent en cacahuète. On a vu ça chez beaucoup de gens, même les bonnes familles, et que le père et la mère, ils ont des bonnes intentions. Ou de moins bonnes, ou ils sont bêtes, et même quand ils sont intelligents, ils peuvent être bêtes. On croit qu'on a le droit d'être méchant avec les gens autour de nous qui sont proches. Ce sont nos gens, j'ai le droit de me permettre de frapper ou de regarder avec un regard avec lequel on les fusille, avec lequel on leur fait honte. J'ai le droit de faire honte. Eh ben, Yaakov ne voulait pas faire honte à Rouven. On a le droit de faire honte qu'une fois, après, il faut mourir. Il fait 5 minutes avant la mort, tu lui dis ce que tu penses. Mais après, il faut plus qu'il te voie, parce qu'il peut pas supporter deux fois. Il peut pas supporter d'avoir reçu une leçon trop dure après de le regarder une deuxième fois le père dans le visage. Et c'est le père, et ça peut être le prof, ça peut être le rabbin, ça peut être le voisin, n'importe quoi. On a advarim, vexation, c'est des choses fondamentales. Et c'est ça que la Torah nous raconte. La solution, s'il y a une solution, et la Torah nous donne les solutions. Tu veux pas que le faux prophète essaye de séduire les Juifs. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Encore une fois, chapitre Yud Gimel, verset Hei. Marchez derrière votre Dieu, comme Dieu, il est miséricordieux. Comme Dieu, il est plein de douceur. Faites comme Dieu, soyez plein de douceur. Votre Tiraou, n'ayez peur que de Dieu, n'ayez pas peur des adeptes des autres, n'ayez pas peur des malédictions ou des agressions, n'ayez pas peur, ayez peur de Dieu. Faites mitzvot, tishmoura, appliquez la Torah, pas autre chose. Écoutez le prophète, servez-le au beau titre, collez-vous très fortement à Gmelot Chassadim, soyez très gentils entre vous. Parlez pas mal un autre. Un juif, on parle mal d'un autre juif, il peut partir ailleurs. Il faut que les juifs, ils sont unis, ils parlent pas mal un de l'autre. On peut traduire ce mot. Je pense que l'Or HaChaim, il traduit. Ce prophète, Yumat, il mourra. C'est pas marqué tue-le. Il est tue-le, voilà, il a mis ça de tuer. Mais des fois, tu n'es pas obligé de tuer, il mourra tout seul. Si vous êtes gentil entre vous, donc automatiquement, il n'aura pas d'influence. Ce prophète, il mourra, Yumat, il mourra tout seul dans le sens figuré. Il ne peut pas t'attraper. Le missionnaire ne peut pas t'attraper. Si tes enfants, ils t'aiment, ils aiment la Torah, ils aiment Dieu avec Torah ou Mitzvot, ils aiment Dieu plus que tout. Yumat, l'autre, il va, le missionnaire, il va se fatiguer, il va mourir, il ne réussira pas. Qui dit Sarah, il parle n'importe quoi quant au ton Dieu, il réussira pas. Si toi, tu fais Gemilut HaSadim correctement. Bonsoir, Shabbat Shalom.